Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre. Je suis aujourd'hui avec Zoupik, Étienne Ayem. Salut Étienne.
Salut Stéphane.
Alors Zoupik, parce que ton blog s'appelle Zoupik. Hein.
Ouais, et puis c'est le verlan de Picsou.
Donc Zoupik, alors t'es actif sur internet depuis quelques années maintenant, depuis au moins 2008 ou 2009, avec ton blog notamment, et tu parles des monnaies. Tu as compris déjà le problème monétaire auquel on fait face finalement hein, depuis cette crise financière et sans doute même un peu avant. Alors tu es consultant aujourd'hui sur le sujet des monnaies complémentaires, tu travailles avec des communautés, tu essaies de leur faire prendre conscience du sujet, tu travailles sur le fond, sur la forme, sur les solutions.
Sur la communication beaucoup.
Sur la communication, donc sur comment aussi fédérer les communautés, etc. Alors aujourd'hui on est à Montreuil, c'est un événement sur les monnaies complémentaires. Qui en est à sa sixième édition et bon tu es là, alors qu'est-ce que tu fais à Montreuil sur cet événement?
Eh ben la première chose c'est que je suis venu rencontrer les personnes puisqu'il y en a beaucoup qui sont à droite à gauche sur les territoires et donc je les connais pas forcément tous. Et ben quand ils viennent à Montreuil c'est quand même l'occasion facile, moi habitant Paris, de les rencontrer. Donc ça c'est la première chose que je voulais faire, c'était rencontrer les personnes et faire connaissance avec les personnes qui partagent cette passion ou en tout cas cette conviction. La deuxième chose, c'était participer et aider dans l'organisation aussi. Comment changer un peu les formats d'habitude. On a l'habitude d'anciens schémas et de trouver des schémas plus participatifs. Donc là, typiquement, ça a commencé avec un forum ouvert ce matin et puis j'ai proposé une petite marche de respirer pour entrer dans l'espace et faire connaissance les uns les autres avant de savoir qui on est. Donc voilà, participer, apporter une touche un petit peu différente de... plus participatif, je dirais.
Ouais, donc ce forum ouvert, juste un mot peut-être, puisque moi j'ai vu un peu comment ça fonctionnait, c'est pas mal, c'est un peu comme sur Internet. Sur Internet, finalement, on va sur un forum, on va sur un autre, on fait un peu comme on veut, là c'est un peu la même idée. C'est quand même très bien organisé, il y a des ateliers, ils sont numérotés et ils sont datés, hein, on sait à quelle heure il y a tel ou tel atelier, mais on n'est pas tenu d'assister à l'un ou à l'autre, ils se suivent pas forcément séquentiellement, et on peut comme ça aller de l'un à l'autre si on sent que le sujet nous intéressera un peu plus ailleurs.
Exactement.
Alors, sur les monnaies, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui en 2012, après au bout de ta réflexion, et où tu en es, qu'est-ce que tu en penses, à la fois sur le sujet en général, et puis en particulier relativement aussi à la crise financière que l'on vit.
Pour faire juste un brin d'historique, en fait, moi j'ai commencé vraiment à prendre conscience de tout ça en août 2007. J'ai commencé à suivre la crise du subprime en août 2007 via les blogs, assez rapidement celui de Paul Jorion, qui était une figure, enfin ma météo, quoi. J'allais chercher la météo tous les jours de suivre la crise du subprime. Et puis j'ai fait deux semestres au Mexique et en Argentine où j'ai vu le bug de la monnaie et des crises monétaires à répétition et qui derrière sont des patterns, vraiment des tendances qu'on voit répéter un peu partout où plus t'es riche, plus t'es riche, plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. Et si t'es pauvre, tu vas emprunter aux riches et tu vas devoir leur payer. Donc c'est cette espèce de non-sens qui existe aussi en France, mais qui est dans une tendance beaucoup plus lente. Et donc c'est moins visible qu'au Mexique, où là c'est vraiment flagrant. Donc pour moi aujourd'hui, je dirais qu'il y a ce constat qui est vraiment clair comme de l'eau de roche, ça, il n'y a plus de doute, le système ne marche pas. Le système capitaliste, la monnaie capitaliste ne marche pas, crée des inégalités de richesse, crée de la dette, appauvrit tous les pays, appauvrit le monde. Enfin vraiment, il y a une bêtise, et puis concentre les richesses au même endroit, et puis ne prend pas en compte l'environnement, et puis je pourrais continuer comme ça. Enfin, à la fois, ça nous a permis énormément de choses, ça a permis la révolution industrielle, ça a permis la concentration du capital, mais on voit bien aujourd'hui en 2012 que ce soit la crise écologique, la crise économique, la crise de la finance, ou les crises de finance, les espèces, enfin, on a oublié pas mal de données dans l'équation. Donc ça, c'est le constat, ça marche pas et le système est en bout de route, il casse régulièrement. Et voilà,
D'accord, mais quand tu parles du système, tu t'as parlé de monnaie capitaliste, qui est plus subtil que dire capitaliste au sens large. Est-ce que selon toi, est-ce que c'est lié au code justement de la monnaie? Est-ce que tu vois, toi, est-ce que tu as perçu que c'était la façon qu'on a de créer cette monnaie-là finalement? Et que finalement, il y a d'autres possibilités de créer des monnaies sur d'autres bases. Comment tu perçois ça? Comment tu analyses ça?
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est le code, c'est-à-dire la façon dont la monnaie est créée n'est d'abord pas démocratique. C'est-à-dire on n'a pas décidé ensemble de ce code-là. Enfin, moi, je ne me rappelle pas avoir voté pour ces trucs-là. Donc la façon dont on décide de ce code. La deuxième chose, c'est le code qu'on a aujourd'hui. Quand je dis monnaie de type capitaliste, pour moi, ça veut dire 4% d'intérêt. C'est-à-dire à la fin de l'année, j'aurai 4% de plus. D'où ils viennent ces 4%, comment ils sont créés, est-ce qu'ils sont créés à partir de la dette, etc. Donc ça, je critique aussi. Ça ne veut pas dire que ce système est mauvais et que ce ne soit pas bon à une petite échelle ou dans un contexte très particulier. Mais de façon généralisée sur la planète, c'est aujourd'hui pour moi une bêtise. Et la troisième chose, c'est que c'est créé à partir de la dette.
La monnaie est forcément finalement un prêt. Alors, ils sont arrivés à un point d'ailleurs que dans le langage, ils disent mais comment il va pouvoir emprunter, comment il va pouvoir. Donc, comme si c'était par essence forcément la notion de prêt, alors qu'on sait très bien qu'il y a des monnaies à crédit mutuel où il n'y a pas de prêt.
Complètement. Donc, la façon dont elle est créée. Et la dernière chose, c'est par qui elle est créée. Et donc on sait aujourd'hui, ça dans le système, on est complètement d'accord là-dessus, je pense, ce sont les banques privées qui en grande majorité créent la monnaie. Et donc ça, c'est quelque chose que je critique aussi. Donc il y a vraiment tout à refaire dans le sens, la façon dont elle est créée, par qui elle est créée, pourquoi elle est créée et comment elle est créée. Donc pour moi, on est vraiment arrivé au bout du jeu de Monopoly. Voilà, c'était un premier jeu. Et puis là, on dit, OK, on est d'accord que ce truc-là ne marche pas. En même temps, il permet de faire encore les échanges aujourd'hui. Donc je ne vais pas le détruire. Je le laisse faire sa vie. Mais comment je crée autre chose à côté pour... remettre du sens, remettre des valeurs, remettre de la démocratie, remettre du bien commun.
D'accord. Et alors, c'est là que ça t'amène, ça t'a amené à la réflexion sur les monnaies complémentaires. Mmh. Et alors, je sais que tu as suivi aussi les travaux de Bernard Lieter de près, tu as beaucoup parlé aussi de la notion de résilience, tu as compris ce principe-là, etc. Donc, comment tu perçois maintenant, après ce parcours, cette vision, cette analyse sur les monnaies complémentaires, comment tu analyses ça? Quelle est ta vision de ces monnaies-là? Comment tu les perçois? Comment tu les analyses? Y compris d'ailleurs les monnaies sur Internet, comme Bitcoin, peut-être OpenUDC, dont tu as entendu parler, etc.
Pour moi, les monnaies complémentaires, c'est une façon de se mettre en chemin, collectivement et de façon citoyenne. C'est-à-dire de se mettre en chemin et de dire, OK, on a compris ça ou on est en train de comprendre ça, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Et les solutions, il y en a différentes. Mais l'aventure commence à partir du moment où on se met en mouvement et on va en parler. Et rien que le fait d'en parler nous fait bouger par rapport à ces sujets, nous fait remettre en question ce qui était pris comme une évidence ou le seul système qui marche, puisqu'on a le communisme a fait son échec. Et donc on dit par défaut c'est celui-là. Donc pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de commencer des aventures, déjà de se poser des questions, d'aller se documenter sur le sujet, d'entamer la réflexion et la remise en question de ce système et des valeurs qui le sous-tendent. Oh, j'ai fait une belle phrase.
Ouais.
Waouh. Non, donc c'est commencer une aventure. Moi, je suis convaincu dans le fond qu'on a besoin d'un revenu de base, d'un revenu à dividende universel. La difficulté pour moi de ce chemin-là, c'est qu'on ne peut pas commencer tout de suite. Il y a besoin de convaincre beaucoup de monde, il y a besoin que ce soit plus top-down et que ça vienne des politiques. Et du coup, en même temps que je soutiens ça et que je soutiens ceux qui développent ça, moi j'ai choisi une voie qui est plus... comment entre citoyens on peut commencer, soit avec un sel, soit avec une monnaie complémentaire, qui est peut-être une plus petite échelle, mais qui déjà marche, et qui déjà nous permet de dire on a réussi à faire quelque chose et on en voit le résultat, qui est quelque chose qui est peut-être plus fainéant, mais en tout cas qui paye et on en voit le résultat, et donc il y a un côté de satisfaction, puisqu'on voit déjà le résultat assez rapidement.
Et puis ça participe de la prise de conscience, parce que évidemment quand on fait, on comprend mieux les choses, d'accord.
Ouais. C'est l'aventure du sol violette, par exemple, à Toulouse, moi que j'adore, parce qu'ils ont passé un an à différents collèges avec des personnes où ils ont dit on va faire une monnaie pour le bien commun. Et le bien commun, ça peut pas être, on peut pas avoir 70% qui votent pour un truc et puis 30% qui votent pour autre chose. Le bien commun, ça doit plaire à tout le monde. Ou en tout cas, personne ne doit être contre.
Ça devrait, oui.
ça devrait. Et donc, dans la construction du sol violette, ce qu'ils ont fait qui, moi, me passionne, c'est qu'ils ont créé trois niveaux de vote. Ils ont dit soit c'est le consensus, tout le monde est d'accord pour décider quelque chose de la monnaie. Soit c'est le consentement, c'est-à-dire personne n'a d'objection. Mm-hmm. Je suis pas fondamentalement d'accord, mais j'ai rien contre. Mm-hmm. OK, donc ça passe. Et si on n'arrive pas à faire ça, on fait une majorité aux deux tiers. Ok, donc ils ont trois paliers et dans tout leur groupe.
Pendant donc il y a une priorité sur ces paliers,
ouais,
c'est
ça ? Palier numéro 1, consensus. Le monde des bisounours, tout le monde est d'accord et ça marche. Si ça marche pas, on fait le deuxième palier qui est consentement. Donc, ok, t'es pas d'accord, mais est-ce que tu as une objection ? Et si c'est une objection, c'est une objection raisonnable. Et donc là, on va aller chercher les arguments parce que peut-être que t'as vu un truc qu'on n'a pas du tout capté. Et à ce moment-là, c'est important que tu nous le dises et qu'on mette l'intelligence collective de une monnaie, elle va nous représenter tous. Donc dans la décision. S'il y en a un qui a une objection ou qui a quelque chose qui est raisonnable et qui nuit à lui ou au bien commun, bah génial parce qu'on ne l'avait pas vu et du coup ça améliore la réflexion et la construction de la monnaie. Et si jamais, on a toujours le troisième palier qui est une majorité aux deux tiers, c'est même pas la majorité absolue traditionnelle des 50%.
Ça, c'est donc pour les projets collectifs uniquement.
Ça, c'est l'histoire du sol violette.
Des projets communs, uniquement communs.
Ça
veut dire que la monnaie est créée sur la base uniquement de choix de projets communs, c'est ça l'idée ?
Non. Ils ont créé la règle de comment elle va être émise, comment elle va être détruite, quel pourcentage de fonte, enfin toutes les règles et toute la construction du schéma de la monnaie du sol violette. Ils l'ont défini avec 5 collèges différents et toutes leurs décisions, ils les ont prises comme ça.
Et avec ce principe-là. Donc, ils sont mis d'accord quand même sur le code.
Ils sont mis d'accord sur le code de décision.
Est-ce qu'ils ont intégré, et là, parce que là, ça, c'est un facteur que Monelib va mettre à jour, il va être très, très précis là-dessus. Forcément, est-ce qu'ils ont intégré le fait que dans 10 ans, ça ne sera plus tout à fait les mêmes, parce qu'une partie d'entre eux seront morts, il doit y avoir des vieux où il y aura des gens qui auront vécu des accidents, c'est malheureux, mais c'est parce que la réalité. Et des jeunes vont arriver, ça, c'est positif, on est content. Il y a des jeunes qui vont arriver qui n'ont pas participé à cette élaboration. Comme tu disais tout à l'heure, toi-même, tu n'as pas participé au code de création de l'euro. Tu n'as jamais voté pour ça, etc. Donc, est-ce que la remise en cause du code au fur et à mesure, donc de façon, continue dans le temps, est incluse dans cette mécanique ou est-ce que il s'est pensé, bon voilà, il est comme ça et puis il ne faudra pas le toucher après ?
Non, de façon générale, les chartes des monnaies locales sont évolutives. Après, de savoir comment dans 10 ans ça marche par rapport à aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu et par rapport au statut, ils ont créé des statuts spécifiques pour l'association. Donc, comment on est élu, ça je sais que c'est la même chose, c'est-à-dire c'est le même système de pas d'objection. C'est-à-dire, d'abord, est-ce que tout le monde est d'accord pour que ce soit lui, le nouveau représentant, le vice-président de tel collège ou je ne sais pas quoi. En fait, ils n'ont pas de président, ils ont des vice-présidents. Ils ont refait toute une assemblée, c'est un système qui est assez complexe.
On voit le lien avec la démocratie là aussi.
C'est une monnaie citoyenne vraiment qui est tenue par des gens, des amoureux de la République au sens noble, je dirais. Et, voilà. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, en fait, ce qui moi me plaît énormément dans cette aventure, c'est qu'en un an de création monétaire, citoyenne, etc., toutes les décisions ont été prises au pire au deuxième niveau. C'est-à-dire jamais aux deux tiers. Toujours ils ont réussi avec des objections à aller voir les objections, lever les objections et dire ok, plus personne n'a d'objection. Et donc la monnaie est une réussite pour moi puisqu'aujourd'hui elle tourne, elle existe, il y a des billets, etc., des adhérents, 80 commerces et 700 adhérents environ. Et l'autre réussite pour moi, c'est qu'elle a été faite dans ce dialogue et ce respect les uns des autres de l'adversité. On n'est pas tous égaux, j'en sais rien, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes envies, mais en tout cas dans la monnaie, ils ont réussi à tous s'écouter et se mettre d'accord pour avoir une monnaie commune.
D'accord. Et alors, est-ce que tu peux peut-être, pour finir, peut-être prendre un peu plus de distance, là tu as parlé particulièrement du sol violet, dont tu as donné ton idée générale, est-ce que tu pourrais nous citer les différents codes monétaires que tu as pu apercevoir, est-ce que tu as vu des choses qui t'ont frappé, ou maintenant que des choses qui te semblent à peu près balisées, c'est à peu près toujours comme ça que ça se fait C'est quoi, crédit mutuel, donc ici, collège de décision pour investissement collectif, etc. Bon.
Il y a deux codes. Moi, quand je crée une monnaie ou quand j'étudie une monnaie, il y a deux codes qui m'intéressent. Le premier, ça va être le code de la monnaie, proprement dite, comment elle est émise, comment elle est détruite, comment elle circule. C'est presque une carte, quoi, vraiment une map des flux. Et le deuxième, c'est le code de gouvernance, c'est-à-dire qui décide, comment c'est décidé, quels sont les flux de décision. Et ça, c'est vraiment les deux cartes de pouvoir qui doivent être répartis. À partir du moment où j'ai ça, je peux voir, voilà, est-ce qu'il y a un étranglement ou un entonnoir sur...
Le code de la monnaie pourrait intégrer la partie... parce que si le code détermine parfaitement comment la monnaie est créée, par exemple, typiquement au PUDC, la monnaie se base sur l'individu, il y a un dividende universel pour tous, point terminé, il n'y a aucun accord collectif nécessaire pour quoi que ce soit d'autre. Code est l'accord collectif, en fait.
Oui, c'est ça. C'est quand tu dis ça, tu as déjà décidé que le code, c'était ça.
Voilà, c'est ça.
Donc, il est proposé et quand je rentre, j'accepte le code.
Voilà, c'est ça.
Et sinon, je ne rentre pas.
Voilà, exactement. Pas le code. Tout à fait.
C'est une membrane où si je rentre,
j'accepte. Mais là, on a fusionné les deux quand même ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette dichotomie.
C'est ce qui se passe peut-être pour Sol Violette, pour ceux qui l'ont pas créé au départ. Si je rentre aujourd'hui dans le Sol Violette, j'accepte le code tel qu'il a été défini par ces collèges, ces personnes, etc. qui l'ont monté. Et j'ai pas besoin d'être là à l'origine pour le développer. Ouais. Pour les codes de monnaie, je dirais aujourd'hui, ouais, je crois qu'il y a vraiment deux ou trois familles. Il y a un crédit mutuel qui va être, on a tous un compte à zéro, on peut naviguer en positif, négatif. Crédit mutuel aussi bien citoyen avec les SEL que entreprise avec ce qu'on appelle le barter ou le crédit mutuel B2B, typiquement le VIR en Suisse, le RES en Belgique, et Nantes va être sur ce modèle-là. Donc soit les SEL, soit du crédit mutuel, qui est pour moi quelque chose de puissant, et bon, on peut en parler après si tu veux, et l'autre c'est ce qu'on a plutôt dans le sens monnaie locale complémentaire, où là on a un fonds de garantie en euros.
Oui, ça c'est la fausse création. Hein.
C'est ce qu'ils appellent du nantissement, ouais. C'est-à-dire ils ne créent pas de monnaie, proprement dite, ils nantissent des euros, ils bloquent des euros dans une caisse et ils vont émettre des billets de cette monnaie locale. Il y a un stock d'euros qui ne bouge pas, qui est la garantie, et on va faire tourner les sols violettes dans le réseau local.
Ça revient à faire un produit titrisé en fait, c'est-à-dire que la monnaie complémentaire devient un produit titrisé qui a une contrepartie en euros, qui lui-même a une contrepartie en potentialité par exemple de payer ses taxes. Ouais. Ouais. Ça devient de la titrisation en fait, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Le changement dans l'un ou dans l'autre, l'accessibilité n'est pas du tout la même. Dans le sol violette, je peux arriver, ou dans une monnaie locale avec des billets et un fonds de garantie. Dans mon inconscient ou dans mon conscient, je ne sais pas, quand j'arrive, je mets des euros et je récupère autre chose. Ouais. Donc j'ai payé quelque chose et j'ai un équivalent de valeur, donc ça ne me chamboule pas trop. Je comprends à peu près, du coup ça me pose d'autres questions. Mais je peux arriver et me dire, bon, j'ai mis 100 euros là, je récupère 100 sol violette. Voilà, ce sont des billets, même si c'est une monnaie locale, même si sont.
Alors que c'est pas même vraiment si un billet qu'on a, parce que ce qu'on a vraiment, c'est le nombre qui a marqué dessus. Mais non, le même billet, mais avait marqué 400 dessus ou marqué 50, c'est un billet, c'est le nombre, ne pèse pas de différence, et c'est le nombre que l'on a.
Ouais, c'est une convention où on va dire, on va faire des billets de 1, des billets de 5, des billets de 10, et ça, je sais que ça vaut quelque chose, parce que j'ai donné des euros avant de l'autre côté. Ouais. Sur les crédits mutuels ou sur le barter inter-entreprise, on va créer de la monnaie, ou on va émettre de la monnaie ou des crédits, plus exactement, des titres, on va dire, t'es à moins 600. C'est un indicateur qui dit que tu as une valeur de moins 600 quelque chose que tu as consommé dans le réseau. Et donc, ça marche pour les entreprises, mais au niveau du changement que j'ai à faire moi en rentrant là-dedans, c'est de comprendre, oui, mais sur quoi elle est garantie ? Et en fait, ou qu'est-ce qui me dit que s'il y en a un qui est à moins 1000, il ne va pas se tirer à moins 1000 et il va plomber le réseau ? Et là, on est vraiment dans un changement pour moi de paradigme, dans le sens où la garantie, c'est la communauté. La garantie, c'est la confiance, et la garantie, c'est l'engagement des membres et de l'organe qui est au centre et qui va gérer ça, à être dans une autre dynamique qui n'est plus « je te prends, je donne, on est en compétition les uns avec les autres », c'est « on est relié et on a besoin de faire des échanges
les uns
avec les
autres ». C'est l'homme qui gage, c'est l'homme qui est fondateur, c'est l'homme qui est finalement, c'est l'ensemble des hommes de la communauté qui est finalement le gage ultime de cette monnaie, c'est-à-dire c'est l'accord, la monnaie et l'accord. Ouais. D'ailleurs, ce que tu viens de dire est très bien dit, je pense, parce que selon la théorie orative de la monnaie, justement, l'idée, c'est que de dire que si c'est un dividende universel, bien sûr, la personne peut toujours partir quand elle veut. Mais comme elle a reçu qu'un dividende, finalement, on perd que, entre guillemets, on perd que ce dividende, on perd que cette petite partie. Et si elle part au bout d'un certain temps, mais ce temps qu'elle a fait de présence a participé d'une richesse, donc si elle part, on n'a pas tout perdu en quelque sorte. On a bénéficié pendant ce temps-là de sa présence. Donc d'une façon ou d'une autre, elle a donc participé, comme les abeilles, comme on disait, on ne sait jamais finalement ce que produit un homme ou pas, et ça peut être positif. Donc du coup, alors que l'idée c'est de dire, à contrario, que quelqu'un qui rentre dans une communauté qui bénéficie tout de suite, en quelque sorte, immédiatement d'un crédit, je dirais, que les autres ont mis longtemps à établir, une grande partie, il le dépense et il part, alors là, oui, il y a une perte, parce que ce qui sort, finalement, n'est pas de la communauté, n'est pas en rapport de son temps d'existence. Il est venu très peu de temps, il est parti avec beaucoup.
J'ai une croyance, moi, je suis un peu bisounours dans le fond, vraiment dans la vision et je dirais dans la philosophie, c'est que pour moi, la richesse est dans l'échange. Et du coup, si je suis à moins 600 et que je pars à moins 600, j'ai créé de la richesse parce que j'ai permis à l'autre de monter à plus 600 et j'ai permis à l'autre de réaliser son échange. Est-ce que dans le fond c'est vrai ? Est-ce que dans le fond ça se justifie ? Si tout le monde faisait comme ça, non, je pense pas que ça marcherait. Et c'est pour ça que le but n'est pas de vider le compte et de partir avec. Mais tu vois, si je change la mentalité, si on dit que le but, je commence à zéro dans un crédit mutuel et je peux aller en positif et en négatif, on dit toujours oui, mais il y en a qui vont partir à moins 600 et donc ils vont nous voler. Mais il y en a qui vont partir et qui vont peut-être être à plus 600. Et ils vont nous voler aussi dans le sens où ils privent la communauté d'une capacité d'échange. Et on voit toujours, nous, parce qu'on vient d'un monde où le positif sur l'argent, il faut être en positif et pas en négatif. On a une vision qui est tronquée, j'ai l'impression. Et quand on dit, ouais, mais quelqu'un qui a moins 1000, il plombe la communauté. Mmh. Ben, c'est quelqu'un qui a moins 1000 dans un système comme ça de crédit mutuel, que ce soit entre citoyens ou entreprises. Mmh. On va aller le voir et on va lui dire, hey, Coco, t'es à moins 1000, tu peux pas trouver des choses à faire. Qu'est-ce que t'as comme talent? Qu'est-ce que t'as comme activité qu'on pourrait faire tourner ta boîte? Mmh. Et puis moi, je te le paye dans la monnaie complémentaire et comme ça, ça te remonte. Mmh. Mais dans l'autre sens, quelqu'un qui a plus 1000, c'est, hey, Coco, tu trouves qu'il y a de la valeur dans notre communauté? Mmh. T'as pas envie de mes services? Là, t'as 1000, t'es bloqué, tu peux pas trouver quelque chose qui a de la valeur chez moi ou dans le réseau.
Alors ça, c'est justement un phénomène là que finalement qu'évacue, c'est une problématique qui évacue le dividende universel, puisque bah, comme la communauté est monétisée de toute façon, si quelqu'un reste à ses plus 1000, bah, les autres ne sont pas privés de leur échange puisque le dividende remonétise en permanence. En quelque sorte. Et d'un côté non plus, celui qui a moins, il a dépensé tout ce qu'il avait, mais il retrouve un peu une capacité d'échange aussi. Et finalement, on n'oblige ni l'un ni l'autre finalement à se décider. Bon, c'est la différence entre l'approche progressive et l'approche... Ouais.
Si je vais plus loin dans mon analogie là, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on regarde toujours ceux qui sont à moins 1000, les chômeurs, les pauvres, les RMIs, les machins, et on dit, mais il y a beaucoup trop de pauvres. Si on regarde aujourd'hui celui qui a plus 1000, et que je fais l'analogie, les hommes les plus riches de la Terre, là, qui ont 60 milliards de dollars ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en 2012 avoir 60 milliards de dollars quand on sait qu'avec, c'est quoi, 10, 12 milliards de dollars, on peut régler tel problème sur la Terre? Avec 15 milliards, on peut régler tel problème, que ce soit l'eau, que ce soit l'éducation. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Quelle maladie, quel mal-être humain ça représente de se dire « Je suis l'homme le plus riche du monde, j'ai 64 milliards de dollars et je ne les ai pas donnés pour résoudre des problèmes alors que des problèmes, il y en a des milliards à résoudre. » Et donc, c'est là où moi, je vais vraiment au bout de ce truc-là et je dis « Il y a un changement. La richesse n'est plus dans plus 1000 ou moins 1000. La richesse, elle est dans qui je suis et de ma richesse personnelle, mon histoire, mes compétences, mon talent, mon réseau. » Enfin. Le fait d'être dans un pays en paix, ça c'est une richesse pour moi. Et du coup, c'est plus moins 1000 ou plus 1000 qui compte, c'est d'être en lien dans un réseau et de faire des échanges, c'est de respirer.
Oui, tout à fait. Alors évidemment, plus profondément que la monnaie, évidemment, c'est le respect d'autrui, bien sûr, c'est le fait d'être en paix avec ses voisins.
Complètement.
Qui prime, bien sûr, parce que la monnaie n'est pas non plus le centre du monde.
Non.
Il y a des codes un peu plus profonds à la base, ne serait-ce que la relation entre la mère et son enfant déjà. Ce qui aide beaucoup à vivre convenablement par la suite.
Ouais.
Bon, mais c'est bien, on a vu pas mal de points.
Dernière chose que moi je voulais dire, on parlait des codes, il y a un troisième code, je dirais, ça pourrait être Bitcoin, ou les monnaies avec des codes spécifiques, où là le code n'est ni crédit mutuel, ni fonds de garantie qui est devenu un peu une norme au niveau des monnaies locales complémentaires, ce que propose Philippe Desrudeurs et ce qui est appliqué le sol. Bitcoin, typiquement, c'est un code sur mesure, un code spécifique qui, là, pour le coup, est libre, dans le sens où ils disent, le open source, on peut voir le code, on peut y avoir accès. Mmh. Et là, ils disent, quand tu mets ton ordinateur à travailler, ton processeur va crypter des bitcoins et on va en avoir telle masse dans telle donnée, de façon aléatoire, etc. Mais il y a quand même une courbe qui dit, à la fin, on est à 21 millions. Mmh. Donc là, on est pour moi dans un troisième type de monnaie qui sont des monnaies spécifiques. Vraiment sur mesure, où on va définir un code. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un groupe de personnes? On ne sait pas. Là, c'est une personne dans le cas du Bitcoin, mais je vais dire une troisième famille.
Non, c'est pas une personne dans le cas du Bitcoin, c'est une machine. C'est important de comprendre ça.
Celui qui a créé le code au départ?
Alors, celui qui a créé le code, c'est une personne.
Le japonais,
non, mais je voulais dire, celui qui bénéficie de la monnaie, c'est une machine. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait 10 000 machines, qui va creuser en quelque sorte, il va récupérer une grande quantité de la masse monétaire à créer. Ouais. Alors bon, elle a déjà été générée, mais justement. C'est basé sur un principe que celui qui finalement a la plus grande puissance machine peut avoir le plus de monnaie.
Un schéma de Ponzi dans le sens où les premiers arrivés vont en avoir plus alors qu'après ça diminue.
Bah après le problème c'est que cette masse monétaire ne s'adaptera pas de toute façon et puis qu'elle ne permettra pas aux générations suivantes de s'inscrire dans cette monnaie avec les mêmes conditions que leur fondateur.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas d'une monnaie à dividende universel où les premiers se payent un dividende universel mais les suivants aussi. Donc, et il est relativement égal ce qui fait que... On retrouve une égalité dans le temps. Bien sûr, oui, monnaie spécifique, effectivement, à code spécifique, mais c'est bien de comprendre ces différents codes. Justement, sur la monnaie complémentaire, on est presque entre... finalement, on est entre la monnaie imposée, la monnaie obligatoire, la monnaie officielle, et puis ces codes qui sont totalement déconnectés de tout lien avec la monnaie, que ce soit Bitcoin basé sur les machines ou PNUDC basé sur les hommes, sur les individus, mais en tout cas qui ne dépend pas des autres monnaies existantes. Et monnaie complémentaire, comme tu dis, à fonds de garantie, est un peu entre les deux. C'est un truc un peu entre la titrisation et la création de monnaie. Il n'y a pas vraiment de création monétaire, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas tout à fait non plus, parce que les euros qui ont été gagés pour créer cette monnaie vont circuler ailleurs parce qu'ils vont être prêtés. Donc y a quand même une duplication de la monnaie circulante.
Je crois qu'on a des soucis au niveau des noms, parce qu'on utilise des noms que tout ça est relativement nouveau, même si ça existe depuis un certain temps, les termes ne sont pas encore précisément définis. Je sais que toi, tu utilises monnaie libre beaucoup. Jean-François Noubel l'utilisait, je ne suis pas sûr que vous l'utilisez sur les mêmes,
non, pas sur les
sur
mêmes
termes règles. Ou pour la même chose. Mmh. Monnaie complémentaire, moi, c'est un terme que j'utilise pour dire les nouvelles monnaies, entre guillemets. Ici, quand on dit monnaie complémentaire, on est sur monnaie complémentaire locale. Ils sont très spécifiques parce que généralement, c'est avec des billets, généralement, c'est avec le fonds de garantie. Alors que Nantes, par exemple, qui va créer une monnaie dématérialisée, pour moi, c'est une monnaie complémentaire.
Bien sûr.
Donc, on est en train de définir un peu les familles, ouais, et puis ça se fait en avançant. Et puis là où nous, on met des différences très précises en disant ça, c'est une monnaie libre, une monnaie machin, les autres ne voient pas forcément.
Alors, pour dire monnaie libre, enfin, moi je dis que, attention, alors effectivement, pour la monnaie, je sais bien que tu me sur ça, parce que quand je dis monnaie libre, il y a deux choses. C'est que, un, il faut que le code soit libre. Donc, Bitcoin, typiquement, le code est libre, donc ça va, c'est correct. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut que la monnaie elle-même permette les libertés économiques des gens qui vont l'utiliser. Donc ça suppose que la monnaie ne peut pas se créer n'importe comment. Donc c'est très précis. Et en fait, au final, le raisonnement aboutit au fait qu'une monnaie libre ne peut pas être tout à fait n'importe quoi. Il y a quand même des possibilités de variation. Mais en gros, ça ne peut pas être basé sur autre chose qu'un dividende. Il faut qu'il y ait un dividende. Alors ce dividende peut être évolutif. Il peut varier entre des bornes. Il n'est pas forcément toujours égal, etc. Il y a plusieurs options possibles. Mais s'il n'y a pas ça... Il n'y a pas la liberté pour les membres d'utiliser l'outil monétaire puisqu'ils vont être coincés. S'ils n'en ont pas, ils n'auront pas cette possibilité. Et ceux qui le stockent trop vont priver les autres de leur liberté d'échange, comme tu l'as dit tout à l'heure sur les exemples que tu as donnés. Bah écoute, merci Étienne.
Pour un autre point. Merci à toi. Ouais, pour conclure, on parle des monnaies, on a parlé des hommes. La richesse et la valeur, je crois que c'est un changement vraiment individuel et collectif. C'est changer de se dire, ok, la sécurité que j'ai, ou en tout cas ma peur du lendemain, je ne vais pas la trouver dans des chiffres sur mon compte en banque. C'est dans le lien avec les personnes autour de moi, dans le réseau, dans la confiance, dans mes bonnes actions, où je vais pouvoir créer un réseau de confiance et être soutenu par une communauté, faire partie d'une communauté. Et les monnaies, pour moi, ne vont pas changer le monde du tout. Elles ne vont pas sauver de la crise financière, etc. Si nous, on ne change pas. C'est vraiment des outils et il faut définir avant tout qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Et là, on peut créer une monnaie comme outil pour soutenir ça. Mais la finalité à long terme, pour moi, c'est plus de monnaie.
Il y a un fondement philosophique à la base, on est d'accord, clairement. D'ailleurs, dans le monnaie libre, il y a bien un fondement philosophique. C'est basé sur les trois libertés économiques. Alors, on peut les discuter, d'accord, pas d'accord. Mais il y a effectivement un fondement et c'est ce fondement sur lequel on doit s'accorder ou pas. Pour rejoindre effectivement l'accord, parce que c'est ça, c'est quand même un accord. Bon, mais très bien, donc on est toujours à Montreuil, on va voir d'autres invités. Merci Étienne, merci Zoupik, donc Zoupik, le propre de l'homme. Ah, c'est ça, hein?
Oui.
le propre de l'homme. Donc Zoupik, vous tapez dans Google Zoupik, vous avez le site d'Étienne avec beaucoup de réflexions sur plein de sujets, et notamment la monnaie. Et moi, je vous laisse pour que vous rejoigniez maintenant notre générique fétiche. No more dreams, the nighter. Au revoir. We'll be right back.
We'll be right back.